des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
Vous écoutez
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Vous avez peut-être vu ce matin cette manchette dans le journal, le vaccin s'en vient, semble-t-il, peut-être de même de plus qu'un fabricant, des vaccins. Et l'étape suivante, c'est que lorsque des doses sont disponibles, elles puissent être administrées. Ce qui soulève deux grandes questions. La première, c'est dans quel ordre des groupes de population, ce sera pas tiré au sort, dans quel ordre des groupes de population vont recevoir le vaccin. Et ensuite, la mécanique de tout ça, surtout que là, c'est, il semble que c'est une dose et un rappel, donc deux doses de vaccin à donner. Comment on va organiser la logistique de tout ça? Le docteur Gaston Deserre, médecin d'épidémiologiste à l'INSPQ avec nous. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi le plus proche qu'on ait vécu au Québec d'une campagne de vaccination massive et rapide?
Je pense que clairement, la campagne de vaccination qu'on a eue en 2009 avec le H1N1, ça a été une campagne très rapide pendant laquelle entre le début novembre, puis même en fait, on était même dans la deuxième semaine de novembre quand on a commencé à avoir les premières doses. Et la mi-décembre, on a vacciné plus de 4,5 millions de personnes. Alors, ça a été très rapide.
Répétez ça, 4,5 millions en?
En moins de six semaines.
Ça veut dire qu'on vaccinait quoi? 800 000 personnes par semaine. Là. Mais c'était une dose, par exemple. C'était une seule dose.
Oui, puis même, en fait, au début, les doses de vaccins arrivaient, j'allais dire, au compte-gouttes. On n'avait pas autant de vaccins qu'on en voulait. On vaccinait au début, selon les arrivages de vaccins. Et s'il y avait eu plus de vaccins, on aurait pu vacciner plus rapidement.
OK. Et qui est-ce qu'on met à la tâche là, des gens, des CL, parce que on dit qu'on manque d'infirmières, etc. Comment on fait pour mobiliser autant de gens? Ou est-ce qu'il faut stopper des chirurgies? Est-ce qu'il faut stopper d'autres types d'activités dans le réseau de la santé en disant la vaccination devient prioritaire?
Je pense qu'il y a toutes sortes de choses pour ce qui s'en vient. Tout d'abord, évidemment, même si l'annonce de cette semaine d'un vaccin qui était très efficace se concrétise avec le résultat final de l'analyse, parce que ça, c'était juste les résultats préliminaires, là. Mais si ça se confirme puis que le vaccin devient, autorisé pour sa mise en marché d'ici la fin de l'année, le Canada va recevoir un certain nombre de doses, mais on n'aura pas énormément de doses en commençant. Donc, je pense que actuellement, le vrai goulot d'étranglement, c'est pas la capacité à administrer le vaccin autant que le nombre de doses qui va être disponible. Alors, c'est sûr que, par exemple, chaque année, quand on donne le vaccin contre l'influenza, on doit aussi faire vite pour administrer ce vaccin-là. L'essentiel de la campagne se déroule encore là en moins de 6 semaines, entre le début novembre puis la mi-décembre.
Donc, on vaccine quoi, 2 millions? À peu près? Un peu moins?
1,5 million.
1,5 million?
À peu près, oui.
OK. En 6 semaines. Et on utilise plus le réseau des pharmacies. Est-ce qu'on pourrait utiliser les pharmacies dans le cas du vaccin de la COVID?
Écoutez, ça, je peux pas dire qu'à ce moment-ci, là, je sois dans le secret des dieux de savoir.
Ce sera une décision du gouvernement.
Oui, c'est ça. Mais c'est clair qu'actuellement, compte tenu de l'importance de la crise, je dirais, dès qu'il y a des doses vont être disponibles, le réseau va être mis en branle pour essayer d'administrer les doses le plus rapidement possible. Et encore une fois, le gouvernement s'est donné des moyens pour faire que, justement, il puisse avoir éventuellement plus que les vaccinations ordinaire qui puisse contribuer là. Alors, je pense que l'idée, c'est vraiment si les pharmaciens sont là, si les infirmières auxiliaires peuvent travailler aussi sous la gouverne des infirmières, si tout le monde qui est dans le réseau de la santé qui peut vacciner, y travaille, les doses vont être administrées rapidement, mais le problème, c'est l'approvisionnement.
OK. Il va y avoir après ça, évidemment, l'ordre dans lequel les choses vont devoir être faites. Là. Puis là, il y a déjà une espèce de travail préliminaire. Il y a un comité d'experts là-dessus. Bon, on nous a dit le personnel de la santé, les gens vulnérables, les gens âgés. Mais est-ce qu'on va arriver à déterminer, est-ce que quelqu'un va avoir ce courage-là de nous mettre ça sur papier, un ordre, de dire, ben, dans un premier temps, là, les plus à risque, c'est le personnel de la santé? Parce que, mettons, entre des personnes âgées, des personnes asthmatiques, des gens qui travaillent dans la santé, sont tous prioritaires, là, mais à un moment donné, si tu as un nombre limité de doses, je sais pas, mais si tu commences la première semaine, tu as 100 000 doses, mais tu pourras pas vacciner tout ce monde-là. Donc, qui et comment on va déterminer un ordre? Est-ce que c'est carrément mener une décision de santé publique, une décision à la fois de politique et de santé publique? Ou est-ce qu'on va laisser ça dans le flou, puis on va vacciner, puis on va essayer que la population soit pas trop au courant? Comment on va gérer ça?
Non, je pense que ça, pour la question, est-ce qu'on va essayer de laisser la population pas au courant, c'est en tout cas, c'est pas ce qui est prévu. L'idée, c'est effectivement d'en arriver à avoir un ordre qui permette justement de dire on va y aller de façon séquentielle en utilisant cette séquence-là. Bon, le problème auquel le Québec est confronté, c'est le même problème auquel l'Ontario est confronté, ou le reste du Canada, puis même de l'ensemble des pays est confronté. Il y a eu, que ce soit au niveau de l'OMS, même au niveau canadien, il y a eu des, je dirais, des, je sais pas si on peut appeler ça des lignes directrices, mais en tout cas, certaines directives pour nous dire, normalement, on a des grandes chances d'avoir le plus d'impact ça, si on part effectivement avec les travailleurs de la santé, les gens qui ont, les personnes âgées qui, elles, sont celles qui vont le plus rapidement.
Le personnel de la santé, c'est des centaines de milliers de personnes. Les personnes âgées, c'est quoi? C'est 1 million de personnes? C'est quand même pas, parce que c'est pas des groupes de quelques milliers, là, c'est des groupes immenses.
Vous avez raison. Je pense que, par exemple, si on parle du personnel de santé, là, on parle de plus de 300 000 personnes.
Non, c'est ça.
Vous parlez des personnes âgées, là, le million arrive assez rapidement. Là, donc, on parle vraiment de gros chiffres. Maintenant, c'est sûr que on parlait du vaccin de Pfizer, mais il y a beaucoup de manufacturiers actuellement qui sont en train de réaliser leurs essais cliniques de phase 3. Et qui, j'allais dire, talonne un peu là, Pfizer.
Est-ce qu'en février, on pourrait avoir, mettons, 4-5 vaccins approuvés?
4-5, je sais pas, 2-3, si 3-4. Mais qu'on en ait plus qu'un, c'est bien possible. Évidemment, encore une fois, le problème va dépendre de ce que les résultats des études vont nous montrer. Si on a d'autres vaccins qui sont efficaces, et sécuritaire, évidemment, ça va faciliter l'approvisionnement en doses de vaccins. Et encore une fois, un des problèmes, c'est que, en tout cas pour le vaccin de Pfizer, ça requiert 2 doses. Donc, c'est pas juste une dose comme on avait pour le vaccin H1N1 en 2009, mais c'est vraiment 2 doses à normalement 3-4 semaines d'intervalle. Alors ça, c'est sûr que ça fait qu'avec un nombre donné de doses, on vaccine la moitié du nombre d'individus là. Mais ouais. Je dirais que ce à quoi on s'attend, c'est qu'on va avoir des doses, que ces doses-là vont s'échelonner tout au cours de l'année 2021, que l'ordre va être déterminé par le gouvernement. C'est sûr que, par exemple, le Comité sur l'immunisation du Québec va regarder ça, faire certaines recommandations, mais ultimement, c'est le gouvernement qui décide ouais. là, de cet ordre-là.
Est-ce qu'on vaccine les gens qui ont eu la COVID? Ou est-ce qu'on attend les vacciner en dernier? Mais dans le fond, est-ce que les gens qui ont eu un test positif se retrouvent à la fin de la ligne en disant, mais écoutez, là, j'ai failli dire, vous avez eu la chance, là. Je pense pas que c'est une chance, là, mais. C'est pas le bon mot certain, là, mais vous êtes immunisé, là. Vous avez probablement une immunité déjà acquise par la maladie.
Ben, vous savez, quand on regarde le nombre de personnes qui ont eu une COVID confirmée jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est beaucoup quand on a plus que 100 000 cas de confirmés, mais ça reste une petite frange de la population. Là, on parle de peut-être 3%, moins de 3% de la population.
Donc, vous allez me dire que ça change pas grand-chose sur la vaccination massive.
C'est ça, là. C'est pas à ce niveau-là que ça va se jouer, là. Je peux dire qu'on n'en a pas encore discuté de ce sujet-là. Donc, je serais pas capable de vous dire qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est certainement pas le groupe qui est en haut de la liste, là.
Le sujet le plus délicat, évidemment, sont les gens qui, pour toutes sortes de raisons, vont craindre le vaccin, vont refuser le vaccin. Comment on va gérer ça? Est-ce qu'il y a, par exemple, des milieux de travail? Je sais pas, mais quelqu'un travaille dans le milieu hospitalier puis veut pas le vaccin. Quelqu'un travaille avec le public puis veut pas le vaccin. Est-ce que des employeurs pourraient l'obliger? Est-ce que, par exemple, des salles de cinéma ou des organisations comme celle-là pourraient dire, ben nous, on demande une... Si tu veux venir, on rouvre les salles de cinéma, mais moi, si tu veux venir dans mon cinéma, faut que tu présentes ta carte comme quoi tu as été vacciné, parce que... Non, mais pour vrai, le virus va avoir tellement écœuré la population, gâché la vie pendant, je sais pas, mais 15 mois, 16 mois, 17 mois. La patience des gens avec quelqu'un qui va dire, bah moi, je crois pas à ça, les vaccins, ou j'aime pas les vaccins, la patience des autres va être limitée, là. On va commencer à la trouver moins drôle.
Ben, écoutez, jusqu'à maintenant, au Québec, on n'a jamais eu de vaccination obligatoire. OK? Donc, il n'y a aucun...
Ça semble exclu, là. Ça semble exclu de forcer les gens, là.
Je penserais pas qu'il y ait d'obligation vaccinale qui soit proposée ou recommandée par le gouvernement, là. Maintenant, c'est sûr que là-dedans, on a un travail à faire d'expliquer justement jusqu'à quel point le vaccin est efficace et sécuritaire et d'amener les gens là à se faire vacciner de façon volontaire. Alors, évidemment, les choses actuellement, si ça se mettait à tourner au vinaigre puis à aller vraiment pas bien, peut-être que le gouvernement va décider autre chose, mais vraiment, ça fait pas partie de ce que j'ai entendu parler ou discuter d'aucune façon.
Mmh. Mais est-ce que ce serait légal, par exemple, pour un employeur de dire, ben moi, là, j'ai assez eu de problèmes avec la COVID sur ma chaîne de production puis dans mon entreprise, j'oblige la vaccination. Est-ce que ça serait légal? Ou non?
Je pourrais,
c'est un plus une question pour un avocat. Ouais, c'est ça, c'est les droits et libertés. Ouais, c'est ça.
Faudrait que vous demandiez à un avocat parce que ça, je serais pas capable de vous informer là-dessus.
Je comprends très bien. C'est un autre champ, mais c'est le genre de questions qui vont se poser tout à l'heure. Là, j'en ai pas le moindre doute. Docteur Dessert, merci d'avoir été là.
Ça m'a fait plaisir, M. Dumont. Au revoir. Bon après-midi.
On va à la pause. C'est Richard Martineau qui est là au retour.